bienvenue dans l'émission hebdomadaire de Brut. Alors Brut, c'est quoi? C'est une association étudiante de l'UTC qui propose différents formats médiatiques. Rien pour toi.
Salut, on m'entend mieux maintenant. Salut les copains, excusez-moi pour ce petit problème de son. Bienvenue dans l'émission hebdomadaire de Brut. Alors Brut, c'est quoi? C'est une association étudiante de l'UTC qui propose différents formats médiatiques rien que pour toi, pour t'informer et te divertir. Tu peux nous rejoindre sur Facebook ou Instagram en cherchant notre petit nom, Brut UTC. Ah, tu dois déjà avoir envie de te plonger dans les vidéos qu'on a postées, mais attends, reste avec nous. Aujourd'hui, on discute du beau projet « Être un bon allié », projet engagé d'un groupe d'UTC1 qui cherche des solutions pour aider des victimes de discrimination à se défendre. On accueille donc aujourd'hui Laïs et Louise, porteuses de ce projet, pour vous faire découvrir cette initiative. Et je serai avec Paula pour cette émission. Salut Paula, salut Laïs, salut Louise.
Salut.
Ça va et toi?
Bah, ça va très bien, moi. Bon, et puis il y a quelqu'un d'autre que l'on n'a pas mentionné à cette table, et pourtant il est attendu chaque semaine pour son talent et son humour. C'est le moment de la chronique d'Antoine. Salut.
Salut Jade, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Quatrième chronique pour moi dans l'émission, et on va parler de numéro 4, sujet ô combien intéressant.
Qu'est-ce qu'un numéro 4?
Alors attends, on va commencer par une autre question. Quel est votre fruit préféré?
La mangue.
Ah, moi aussi c'est la mangue.
C'est vrai?
Ouais, le pamplemousse.
Ok, super, moi c'est la fraise. Sucrée, délicieuse en tarte, en fraisier, en confiture, puis surtout à croquer. En plus, on rentre dans la saison, donc c'est un bonheur. Bon, donc on a quelques fruits. Personne n'a cité l'abricot. Et je suis sûr que si on faisait un sondage avec un échantillon plus large, on conserverait cette tendance. Parce que c'est vrai, l'abricot, tout le monde aime ça, mais personne n'en raffole au point de les dire fruits préférés.
C'est vrai, ça.
En plus de ça, il arrive en plein été, quand on a déjà tous les fruits dont on peut rêver. Il fait donc face à la concurrence des pêches, des brugnons, des cerises, des figues ou même des melons.
C'est pas des fruits, les melons.
Bon, très bien. L'abricot est un fruit moyen. Et alors? Eh bien, je pense qu'on pourrait lui coller l'étiquette de numéro 4. Un numéro 4, c'est un truc que tout le monde aime un peu. Peu le déteste, mais peu l'adore. Il obtient la quatrième place dans nos cœurs, celle au bas du podium, mais pas en fin de peloton non plus. En bref, il ne se démarque ni en bien ni en mal. Bon, super, mais ça nous mène à quoi de réaliser que l'abricot est un numéro 4? Eh bien, ça nous mène à trois choses. D'abord, à cette sensation toute particulière du « Ah oui, c'est vrai ça, il a trop raison !» Ensuite...
c'est vrai ça.
Ensuite, à rien, parce que c'est vrai qu'on pourrait tout aussi bien laisser les abricots tranquilles. Ils sont déjà bien gentils de revenir colorer en orange nos étals de marché tous les ans. Ils ne sont peut-être pas obligés, en plus de ça, de savoir qu'ils nous laissent mes figues, mes raisins. Enfin, ça nous laisse sur les bras une notion des plus intéressantes à explorer, le numéro 4. Ça s'applique à pas mal de domaines. Dans les légumes, on a le concombre que tout le monde aime un peu. Et puis en numérologie, le chiffre 4, c'est un peu un numéro 4, je trouve. Mais enfin, pas sûr. Au-delà des fruits et légumes, il y a des sujets plus croustillants. Par exemple, on pourrait imaginer qui est un numéro 4. Ben oui, on en connaît tous. Des gens que tout le monde aime un peu, que tout le monde est très content de voir en soirée, de prendre quelques nouvelles. Mais alors certainement pas de passer toute la soirée avec en tête-à-tête, ou encore moins d'inviter une semaine en vacances seule à deux. Ce numéro 4, tu n'as pas de connexion très profonde avec. Tu ne vas pas lui dévoiler tes plus grands secrets, tes complexes, ni lui partager tes angoisses, tes chagrins ou tes joies et tes désirs. Et c'est réciproque, parce que tu t'en fous de ce qu'un numéro 4 a à te raconter. Heureusement qu'elle ne te dévoile pas toute sa vie, t'en as pas grand-chose à faire en fait. Bon, c'est pas très gentil tout ça.
Non.
Mais enfin, il faut admettre qu'il y a des gens sympas, mais qui ne sont le ou la meilleure amie de personne. Présenté ainsi, le sort du numéro 4 paraît franchement peu enviable. Quelqu'un qui n'a de connexion profonde avec personne, on a vu destin plus attrayant. Étudions un peu plus en détail le profil type du numéro 4. Si personne ne le déteste, c'est que le numéro 4 est plutôt arrangeant. Pas d'avis tranché, pas d'esprit fermé, pas de grande gueule ouverte non plus. Il peut être d'accord avec tout le monde, consensuel, pourrait-on dire? Peut-être, mais je ne crois pas. En fait, le numéro 4 n'exprime pas un avis tranché, mais qui sait ce qu'il pense au fond. En pensée, il peut très bien être en contradiction avec la tournure de la conversation et ne pas l'exprimer pour diverses raisons. Attrait du consensus peut-être, mais peut-être aussi diplomatie, peur de froisser, tact, ou même timidité et manque de confiance en soi. Le numéro 4, c'est peut-être juste quelqu'un qui n'a pas conscience que son avis compte et qu'il a de la valeur. Par exemple, si Catherine se dit « Toute ma famille me dit que je suis un numéro 4. Cependant, je ne sais pas comment m'y prendre pour devenir la meilleure amie de ma meilleure amie. Avez-vous des astuces ?» Eh bien Catherine, commencez peut-être par comprendre pourquoi vous êtes réellement numéro 4. Est-ce parce que vous n'êtes pas intéressante ou bien parce que vous n'osez pas être intéressante? Est-ce que vous êtes un abricot ou bien une pêche qui se trouve trop petite et orange? Ou bien encore, est-ce que tous les fruits pourris à vos côtés vous critiquent en vous voyant mûr à souhait? En somme, soyez vous-même et vous verrez bientôt que de 4 in, vous passerez à 4 in. Et si vous vous appelez Catherine et que vous portez du Carhartt et que vous habitez au Qatar, eh bien rien de grave, parce qu'être numéro 4, c'est être devant 7 milliards de numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bref, autant de belles fraises, bananes ou pêches à la vie trop tranchée pour plaire à tous. Alors croquez la vie à pleines dents, puisque de toute façon, pour une salade réussie, il faut de tous les fruits.
Mais oui, oh, bravo toi. Tu es notre numéro 1 ici. Incroyable ce chroniqueur. Je vous laisse avec une petite pause musicale pour vous remettre de cette chronique incroyable.
Smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine.
If I rule the world,
imagine that.
I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls.
Could it be, if you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for today. In these last days until where to be. Paradise life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range. Cash, lost tribe of Shabazz. Free at last. Brand new whips to crash. Then we laugh in the illa path. The villa houses for the crew. How we do? Trees for breakfast. Dime sexes have been stretches. So many years of depression make me vision. The better living. Type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies. History's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child. Seeing things like I was controlling. Click rolling. Tricking six digits on kicks and still holding trips to Paris. I civilized every savage. Give me one shot, I turn trite life to lavish. Political prisoner set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I lick Coretta, Scott King, mayor of the cities, and reverse fiends to willies. It sound foul, but every girl I meet to go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa.
If I rule the world,
imagine that.
I free all my.
Story, how the thugs live in worry. Ducked down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes go down out of state. Wait, I had to let it marinate. We carry weight, trying to get laced. Flip the A stack to safe. Millionaire plan to keep the gap with the cocked hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips. Be poor or rich, still nobody want a nigga have a shit. If I rule the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or beef felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck?
If I rule the world,
imagine that.
I free all my sons.
I love them, baby.
Black diamonds and pearls.
Could it be, if you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for today. In these last days and times.
If I rule the world,
imagine
if
that.
I rule,
I'd free all my sons.
If I'm not a baby.
Black diamonds and pearls.
Black diamonds,
could
black
it be,
diamonds.
If you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for today. In these last days and times.
If I rule the world.
If I rule,
I'd free all my sons.
Love them,
baby.
super musique de Nas, If I Rule the World, est choisie par Laïs. Raconte-nous un peu. Bah, Laïs et Louise, finalement, c'est vrai que vous avez dû les choisir ensemble. Je regarde qui m'a envoyé la musique, mais.
Ouais, bah, du coup, on l'a choisie parce que. Bah, parce que dans cette chanson, bah, clairement, il y a Nas qui se place. Comme. Enfin, qui veut tout simplement réinventer le monde dans lequel il vit pour lutter contre les discriminations du quotidien, notamment que vivent les Noirs aux États-Unis, mais également en fait faire un monde plus juste, être acteur dans sa vie pour voilà, pour faire un monde plus juste. C'est dans le contexte de la guerre en Irak. Voilà.
Très belle introduction finalement pour votre projet dont on va parler tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'être un bon allié, du coup ? Dites-nous ! On voudrait tout savoir maintenant. Comment
si
on
seulement
fait ?
C'était aussi facile.
C'est ça, vraiment.
Bah justement, en fait, nous, notre but, c'est d'organiser un atelier. C'est un théâtre de l'opprimé, en fait, avec pour but de discuter des différentes manières d'être un ou une bonne alliée face à différentes discriminations, que ce soit le validisme, que ce soit l'islamophobie, le racisme, le sexisme, la masculinité toxique.
Ok, on va revenir un peu sur toutes ces discriminations plus tard, mais déjà, est-ce que tu peux expliquer
Concrètement, pendant l'atelier, les participants ils vont mettre en scène des situations tirées d'expériences réelles de micro-agressions et d'agressions verbales ou physiques sur une personne ou une communauté. Et ensuite, on va avoir un temps pendant lequel on va discuter, des manières qui nous paraissent appropriées de réagir en tant que témoin face à ces discriminations, face à ces situations de discrimination. Et donc, en fait, l'atelier il doit se passer dans un environnement sain.
Oui.
Le but, c'est de favoriser les échanges. Faut pas qu'il y ait de jugement, faut vraiment que les gens se sentent à l'aise, même s'ils se reconnaissent dans certaines scènes comme étant les oppresseurs. Il faut qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour avoir le courage de dire « bon bah voilà, moi dans cette situation, j'ai déjà été l'oppresseur et j'aimerais comprendre en quoi c'est problématique et surtout en quoi est-ce que je peux me déconstruire pour éviter que ça recommence ». Et on va essayer de discuter comment le témoin doit réagir face à cette situation pour, de façon à un peu prendre conscience de nos comportements au quotidien qui sont problématiques.
D'accord. Mais donc, dans quel cadre ça se fait et ça se fera ? Donc là, l'idée, elle est venue d'où, déjà ?
On a participé à l'API qui s'appelle l'API de s'engager, qui a été organisée c'est pendant une semaine l'intersemestre qui se passe, c'est le moment entre deux semestres, donc c'est à peu près d'un mois, et du coup c'est une semaine où on fait des activités sur plein de sujets hyper variés, et donc nous on a participé à du coup l'API API de s'engager, et du coup qui consistait un peu à prendre conscience des enjeux sociétaux et à la fin de créer un projet qu'on pourrait mettre en scène du coup à l'UTC ou dans d'autres contextes.
Vous avez fait ça toutes les deux ou vous étiez plus nombreux ?
On est trois du coup avec Mathilde mais qui est pas là aujourd'hui et que du coup on continue ce projet pour le mettre en place à l'UTC. On aimerait bien qu'il soit finalisé pour la rentrée de septembre.
Et donc on fait ça à côté de Margot qui organise la rentrée
Morgane.
Morgane qui est donc l'encadrante de l'API, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord. Et donc voilà. Le but, c'est d'avoir un groupe du TC1 qui va participer et vous espérez l'étendre un peu à un autre public ou pour l'instant c'est déjà visé universitaire ?
Alors on est en train de créer donc ce serait sous forme d'un jeu. Une sorte de jeu de cartes et du coup on aimerait qu'il soit le plus accessible possible pour pouvoir le mettre en libre service sur internet etc pour que n'importe quelle personne puisse l'animer pour le faire entre amis etc pour que ce soit le plus accessible possible en fait et donc là les premiers tests ils vont se dérouler à l'ITC puisque nous sommes étudiantes là-bas l'objectif vraiment final c'est qu'il puisse vraiment être accessible pour n'importe quelle personne.
Donc Louise, tu parlais de petits groupes qui doit être sain. Mais dans lequel tu peux avoir des personnes qui vont se sentir comme agresseurs ou qui ont pu ressentir cette sensation d'être l'agresseur dans une situation. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est de faire tourner les rôles au sein même du groupe et de les jouer en tant qu'acteur. Est-ce qu'il y a une sorte d'introduction qui permet de parler un petit peu de votre initiative et de la raison de l'existence de cet atelier avant même de commencer l'atelier ?
Oui, bah, disons que l'atelier est encore en cours de développement, mais on a l'idée de faire une petite introduction sur ce qu'est une discrimination systémique, sur la différence entre les micro-agressions qu'on subit au quotidien et les agressions plus directes, qui sont plus faciles à identifier que les micro-agressions, finalement. Et donc, en fait, tout ça pour introduire, justement, ce genre de scène, de scène réelle, et pour que les participants puissent mieux se mettre dans le contexte. Ben voilà, c'est une introduction sur les discriminations systémiques et pour qu'ils prennent au sérieux les scènes qui peuvent paraître banales pour certaines, alors qu'elles ne le sont pas.
Et justement, tu peux nous définir un petit peu ces termes qui sont
c'est
compliqués.
J'ai plus une définition parce que c'est un peu compliqué à
résumer.
À résumer. Donc en fait, selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, donc québécoise, qui est une commission affiliée au Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes, donc c'est un conseil qui est mandaté par la loi au Canada, mais qui est indépendant du gouvernement.
Okay.
Et donc selon cette commission, les discriminations systémiques résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés. Donc en fait, finalement, les discriminations systémiques sont le fruit de préjugés et de stéréotypes et d'une organisation sociétale qui résulte de processus historiques. Et donc, la difficulté, en fait, ce qui rend ces discriminations disons, vicieuses, c'est que, étant donné qu'elles sont présentes dans nos vies depuis notre plus jeune âge, qu'elles sont à nos côtés pendant notre éducation, dans notre famille, on n'en a pas conscience. Et on en prend difficilement conscience. Et donc le but de cet atelier, c'est vraiment de les mettre en valeur pour qu'on en prenne conscience et qu'on change ça, quoi.
Histoire de déconstruire toute une éducation qui fait notre histoire, finalement. Ouais.
Vous avez parlé d'agression et de micro-agression. Vous pourrez différencier ces deux termes ? C'est quoi la différence entre les deux pour vous ?
C'est un peu personnel aussi comment on les définit.
Je pense que c'est subjectif, mais je pense que certaines personnes ne doivent pas se rendre compte de la différence, donc ça peut être intéressant de développer.
Du coup, on va dire que micro-agression, ça peut être des remarques quotidiennes, en fait, et qui n'ont pas vraiment de... comme elle vient d'expliquer Louise, on ne se dit pas forcément dans notre tête c'est méchant ou c'est raciste ou quelque chose comme ça. C'est vraiment juste, en fait, des choses qui sont...
Qui peuvent être mal à l'aise, peuvent déranger.
C'est vraiment, c'est des remarques un peu qui sont finalement violentes, mais qu'on s'en rend pas compte de la violence, en fait. Et du coup, agression, ça serait vraiment, du coup, là, sur un fond, la personne veut faire du mal en soi et en est consciente. Et du coup, c'est vraiment son but. Et du coup, ça va être des termes encore plus violents et ça peut être aussi physique, etc. Du coup.
Ok, donc dans micro-agression, on compte les petites blagues qui sont faites à la légère et on ne se rend pas compte que la personne a l'habitude de recevoir ces petites blagues et que finalement, ça forge complètement son comportement et sa réponse.
C'est violent, quoi. Au fur et à mesure, plus il y en a, plus c'est violent.
C'est l'effet répétitif aussi qui rend les micro-agressions, je pense, des agressions en tant que telles. C'est le fait que ce soit souvent et tout le temps et répété. Ouais.
Et je pense aussi, ce qui est important avec les micro-agressions, c'est qu'elles mettent l'importance sur la façon dont est reçue l'information et pas l'intention qu'il y a derrière la blague. Ouais. C'est-à-dire que on peut faire une remarque qu'on pense positive, par exemple, demander l'origine de quelqu'un sans vraiment la connaître et après développer sur en quoi on trouve que son pays d'origine est magnifique alors que la personne nous a pas du tout parlé de son pays d'origine ou ne veut pas forcément en parler. Et on pense que parce qu'on en parle positivement, c'est pas un problème forcément. alors que la personne donc à qui on a demandé son origine ne veut pas forcément en parler, veut pas forcément, enfin, n'éprouve pas forcément de rattache à son pays ou à ce pays, ou juste, enfin voilà quoi, c'est pas le lieu ni la personne pour en parler. D'accord. Donc ne veut pas en parler. Et donc je pense qu'il est important, c'est que généralement on a tendance à prendre les agressions au sérieux quand il y a un ressentiment de la part de la personne qui émet le propos, c'est-à-dire quand la personne veut du mal. En disant un mot, on va t'insulter, on va dire par exemple un mot raciste pour te blesser. Là, on va directement prendre ça pour une discrimination. Alors que dans les micro-agressions, étant donné qu'il n'y a pas ce... Des fois, souvent, il n'y a pas cette volonté de directement faire mal. Et ben, on a tendance de prendre ça à la légère, alors que la façon dont c'est reçu par la personne opprimée, la personne opprimée peut mal le recevoir, quoi.
Bon, du coup, j'imagine qu'on est tous un peu des micro-agresseurs.
Tout à fait.
Parce que, voilà, sans avoir de mauvaises intentions, on peut avoir des discours qui vont peut-être blesser, effectivement, quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Mais dans ce cas-là, il faut apprendre à lire la réponse de la personne en face, j'imagine. Et donc, c'est là où vous intervenez, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est vraiment, du coup, donc on a essayé de faire le plus de scènes possible en expliquant pourquoi ces scènes-là de micro-agression ou d'agression, elles sont problématiques et... Voilà.
Ok. Est-ce que vous avez un petit exemple là, de scène de micro-agression, par exemple, que vous auriez mis en avant dans un de vos ateliers, une des petites scénettes?
À part si t'en as une en tête, mais sinon... si on reprend... juste celle que tu viens de discuter.
Là, ils sont en train de sortir le dump drive.
Si on reprend l'exemple que tu viens de donner... du coup, imaginons que donc on est en soirée, etc.
Ouais.
Et donc voilà.
On imagine déjà là.
Voilà, super. Les bars ont réouvert et tout, donc voilà, on s'imagine bien au bar et tout avec son petit verre de vin. C'est un peu parisien de faire ça, mais c'est pas grave.
On adore.
Et, et du coup, il y a quelqu'un qui arrive, qu'on ne connaît pas du tout, qui vient nous voir et qui nous dit tu viens de quel pays? Et moi, généralement, quand on me demande ça, pour rigoler, je dis « Ah, je viens de la France.
» Pour rigoler, mais c'est un peu vrai.
Oui, c'est vrai. Tu sais que la personne ne veut pas vraiment savoir ça, mais tu... Oui, mais c'est clairement...
La vraie réponse, c'est que c'est ça.
Okay. On précise du coup que tu es métisse, Laïs.
Oui, je suis métisse, je dis « je viens de France et tout. » Et qu'en fait, la personne insiste en mode non, mais vraiment, tu viens d'où?
Mais t'as pas une tête de français,
je comprends pas. Ça ne marche pas, tu n'es pas. Quand il y a quelque chose qui est étranger là-dedans. Et généralement, ce qui est drôle, c'est que du coup, on explique d'où on vient, etc. Je viens du Cameroun, etc. Oh oui, j'adore le Cameroun. Oh, c'est, en plus, là-bas. Il fait vraiment chaud, les gens ils sont super gentils, ils sont super souriants, etc.
Tu connais bien ça, toi?
Ah oui, c'est ça. Ah oui, en plus, j'ai mon cousin qui vient de Martinique et tout, tu connaîtrais pas Chant. Quel rapport.
Mais vraiment,
les mondes
magnifiques.
Non, je suis désolée. Et que ce qui est, on va dire, compliqué avec les micro-agressions, c'est qu'on sait bien que la personne n'est pas mal intentionnée.
Oui.
Et du coup, on va dire que quand on a une agression, des fois, on se sent, on se sent de répondre violemment à quelque chose parce qu'on se dit je me fais agresser. Du coup, si je réponds violemment, ça sera pas trop disproportionné. Ouais. Alors que devant une micro-agression, c'est hyper dur en fait de savoir comment réagir parce que tu veux pas vraiment faire de mal à la personne parce que tu sais qu'elle en veut pas, mais en fait c'est juste le fait, je pense, de pointer des différences. Pour moi, les micro-agressions, c'est vraiment tu pointes une différence et tu la mets en avant, et c'est hyper blessant parce que j'ai l'impression pour moi on est tous des êtres humains et que du coup je me définis pas forcément en tant que femme métisse, juste en mode j'existe, c'est déjà bien. Et du coup le fait qu'on vienne me dire, quelqu'un que je ne connais pas et qui vient me dire tu es différente de moi, c'est ça qui est violent en fait, et c'est ça qui est un peu compliqué à gérer.
Oui, au final, au fur et à mesure que tu reçois ce genre de remarques, tu vas avoir tendance à répondre un peu plus violemment à la personne, même si elle avait une bonne attention.
Oui,
et le réflexe va être de dire mais pourquoi tu t'énerves, oh non, c'est bon, c'est trop.
Ils sont hyper gentils. Bon, quand je suis allée là-bas,
c'est pas comme toi, franchement.
Hein, c'était d'origine.
Et surtout que du coup, c'est pour ça qu'en fait, dans notre atelier, on part du principe que la personne opprimée, elle va pas réagir. Donc, soit, par exemple, elle peut être sous le choc du coup de la micro-agression, de l'agression. Et du coup, on travaille vraiment sur le rôle du témoin qui est à côté Et du coup, nous, en tant que témoins, comment on peut faire pour être vraiment une bonne alliée ou un bon allié à la personne qui est opprimée, pour du coup l'aider de la meilleure façon possible et selon les contextes aussi, parce qu'on n'a pas forcément, si on parle d'une agression physique, des fois ça fait juste peur, on a juste peur aussi de réagir parce qu'on se dit ça peut se retourner contre moi, ou voilà, enfin du coup c'est vraiment essayer de réfléchir comment, enfin quelle est la meilleure manière de réagir selon plusieurs critères, donc qui sont la sécurité, etc. Et donc voilà, donc c'est vraiment le but de notre atelier.
Je voulais aussi ajouter un truc, c'est que c'est ce qui est un peu compliqué aussi avec les micro-agressions, c'est que tout le monde va pas réagir pareil. Enfin, je veux dire, ça se trouve, par exemple, moi, quelqu'un peut venir me voir et me demander mes origines et je vais être super heureuse d'en parler et de partager ça, alors que quelqu'un va aller voir Laïs, bon, c'est un exemple, hein, je dis pas que c'est le cas, mais quelqu'un va aller voir Laïs super. Et lui demander, et elle va pas du tout être dans le mood d'en parler ou pas, enfin, juste pas envie, quoi. Je viens de France, laisse-moi tranquille. Donc, c'est ça aussi, je trouve, qui est compliqué, c'est que ça dépend des personnes aussi, parfois, pour certains trucs. Donc, mais c'est risqué aussi parce que souvent, après toi, tu vas faire la remarque et la personne va dire ouais, mais j'ai déjà demandé ça, machin, et il a bien pris, on a rigolé et tout. Pourquoi toi, tu réagis comme ça? Ça décrédibilise aussi ta réaction par moment, quoi. C'est ça qui est compliqué, je trouve.
C'est là où il faut laisser la place à la victime de justement s'exprimer et dire pourquoi elle se sent pas bien dans cette situation. Mais là, du coup, dans l'atelier, vous dites que non, la victime, elle sait pas comment réagir.
On exprime quand même, imaginons. Quand on écrit la scène, on dit « Ah, elle rigole nerveusement, etc. » Enfin, on met en scène... Enfin, on explique bien que la personne est gênée et mal à l'aise.
Okay.
Et du coup, c'est comment sortir cette personne-là du malaise. On va dire, si la personne réagit super bien, on va pas commencer à dire « Ah non, mais il faut quand même absolument l'aider. »
C'est ça qui est dangereux, quoi.
Non, c'est pas le but. C'est vraiment de dire « Ok, là, dans cette situation-là, tu sens qu'elle est mal à l'aise et qu'elle sait pas trop comment réagir. Comment, toi, tu peux l'aider pour... »
Voilà, pour dans ce cas-là, toi, bon allié, tu es l'ami qui se rend compte et qui connaît un peu les intentions.
Oui, voilà. Et le fait de voir le plus de situations différentes, ça permet aussi de prendre des réflexes, en fait. Et je pense que c'est ça le truc, c'est que des fois, même nous, sur le coup, tu sais pas vraiment ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Et je pense que c'est comme tout, en fait. Plus tu emmagasines des réflexes, etc., plus tu vas savoir réagir correctement et rapidement quand il y a ce genre de situation, du coup.
Ouais, donc, et... Inversement, il y a aussi besoin de cette compréhension de la part de l'agresseur ou du micro-agresseur, de comprendre en fait toute la diversité des réactions que peut avoir une personne face à ce genre de questions qui peuvent pointer du doigt les différences.
C'est ça.
Typiquement. On avait parlé sur une émission du féminisme et on se rendait compte qu'au fur et à mesure où on était confronté à plein de remarques féministes et sexistes, forcément la réaction de la personne qui était en face de plein de ce surplus d'informations et de ce surplus de remarques, elle allait répondre de manière agressive. On allait la traiter de féminazie et de choses super extrêmes. Mais au final, voilà, c'est ça, c'est aux deux acteurs de l'échange de comprendre les intentions et de comprendre les réactions possibles et imaginables, quoi.
C'est ça.
Ouais, au final, je pense que le plus important, c'est juste apprendre à écouter la personne qu'on a en face de soi, quoi, de pas penser qu'avec sa vision des choses, de dire, mais si je me mets à sa place, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle entend aussi, et d'analyser quand tu parles à quelqu'un, faut voir ses réactions, etc. Quoi. Je pense que c'est ça le plus important au final. Hein. Parce que beaucoup de gens ne le font pas, malheureusement.
Du coup, là, t'es en train de spoiler la fin de leur atelier, quoi.
Super.
Merci
beaucoup.
Super.
Allez-y quand même.
Allez-y quand même.
Ça s'apprend.
On coupera cette partie.
C'est vraiment de se dire, en fait, je pense aussi le problème avec être un allié en général, c'est que des fois, on a tendance à trop projeter. Par exemple, les situations, par exemple, quand on parle des origines, j'ai eu des discussions en me disant, mais moi, ça me dérangerait pas du tout qu'on me demande mes origines. Peut-être. Mais si cette personne-là, ça la dérange, faut pas invalider ces sentiments-là, en fait. Enfin, si ça la dérange, c'est tout. Y a pas à dire, oui, mais moi, ça me dérangerait pas que tu me demandes. Du coup, je vois pas pourquoi ça te dérange. Et je pense que des fois, c'est souvent le souci, en fait. C'est qu'on projette trop comment nous, on pense. Et si la personne pense différemment, on est en mode, super, super chiante.
Et typiquement, du coup, toi, tu as été victime de cette micro-agression, apparemment à maintes reprises. Et qu'est-ce que tu...
Super drôle.
Super drôle. Tu vois, ta réaction, elle est plutôt positive parce que t'as appris à en rigoler, mais est-ce que finalement ça te blesse pas? Est-ce que c'est trop personnel d'en parler?
C'est surtout que je rigole beaucoup des choses comme ça parce que c'est ma façon de réagir et c'est pas forcément la meilleure, mais je pense qu'en fait, ce qui me frustre généralement, c'est que c'est arrivé avec plein de types de personnes différentes. Ça peut être avec, par exemple, des personnes de ma classe ou vraiment des gens vraiment totalement inconnus qui venaient dans un resto nous poser des questions, etc., à des amis et moi. Et je pense que ce qui me blesse à chaque fois, c'est que je me dis, mais en fait, j'oublie tout le temps au quotidien, que je veux dire, je suis différente, entre guillemets, parce que j'ai une pommade et des cheveux bouclés. Et parce que je me vois pas. Ma vie n'est pas une revendication. Et du coup, le fait que des gens viennent me voir et me rappellent en fait ces trucs-là, que je me dis, ah oui, c'est vrai, enfin. En fait, on dit qu'on voit pas les couleurs, mais finalement, on les voit tout le temps. Et c'est. Enfin, je trouve que c'est pas une question de pas voir les couleurs, c'est juste que faut arrêter de dire qu'on les voit pas et qu'après faire des remarques derrière, en fait. Du coup. Donc, ouais, c'est plus que. Je pense que ça me blesse. Enfin, ça dépend des agressions. Ça dépend de la manière dont c'est dit aussi. Mais c'est vraiment, du coup, de me rappeler qu'il y a une différence entre nous et que. Et qu'en fait, elle est criante pour plein de personnes, en fait, c'est ça.
Elle est marquante, ta phrase « Ma vie n'est pas une revendication
». C'est un peu le... Mais c'est pour ça, dès qu'on commence à être engagé, j'ai l'impression que tout le temps nous demande d'être là sur tous les sujets, sur... Enfin, t'es une femme, ah oui, bah, du coup, il faut aussi que tu battes pour le féminisme.
Ouais, c'est
et
ça.
Et voilà, t'es une personne noire, bah, il faut que tu te battes contre le racisme, alors que... Moi, juste avoir des bonnes notes et... faire mon diplôme, s'il vous plaît. Enfin, voilà... Donc c'est un peu...
Et t'as envie de te battre, t'as envie d'avoir ce combat, mais en même temps, on te demande pas d'être sur le front toutes les minutes et toutes les secondes et de pouvoir y répondre à chaque fois, quoi.
Bah ouais, c'est ça. Parfois, t'as la flemme. Hein.
Ouais,
enfin, c'est pour ça que c'est difficile aussi de... Enfin, moi, je sais que je ressens ça aussi, c'est que face à des micro-agressions, des agressions, t'as un côté de toi qui a envie de bien réagir et d'éduquer la personne en face de toi en lui disant bah, « ça me plaît pas, c'est pas bien pour telle ou telle raison, ne le refais pas ». Parce que tu dis, bon, comme ça, il recommencera pas, et c'est bien, mais parfois, t'as la flemme, quoi. T'as juste envie de dire, mais ta gueule, et laisse-moi tranquille. Enfin, et c'est ça aussi, parfois, qui est difficile, c'est que t'as une responsabilité, mais tout le temps, H24...
Tu l'as pas demandé, surtout, en fait.
Enfin, ouais, c'est ça, quoi.
On nous demande beaucoup d'éduquer d'autres personnes, alors que... Enfin, déjà, des fois, t'es juste en soirée, et ouais, tu passes ta soirée, t'as pas envie de... t'as envie d'éduquer d'autres personnes, du coup, c'est un sein qui est un peu compliqué, je pense. Donc oui. Et surtout que... Enfin, pardon...
Je voulais demander si c'était parce que justement vous vous sentiez vous aviez l'impression de vous sentir particulièrement dans ce système de micro-agression ou d'agression que vous aviez eu envie de travailler sur le sujet et de mettre en place quelque chose.
Oui, bah je pense que en fait moi j'avais déjà entendu parler du théâtre de l'opprimé. Du coup de base le théâtre de l'opprimé c'est un atelier qui se fait beaucoup pour plein de sujets différents. Donc c'est vraiment en fait jouer des scènes d'agression, enfin de n'importe quel type, et après d'en discuter en groupe, etc. Voilà. Et du coup, moi, je voulais déjà le faire, je voulais déjà essayer de le faire en adaptation à l'UTC, et ça trottait dans ma tête depuis très longtemps. Et du coup, quand j'ai rencontré Louise pendant cette API, on a vraiment discuté, et on s'est dit « Ah, mais moi, j'ai vécu ça aussi !»« Ah, mais moi aussi !» non. Et du coup, c'est vraiment pendant une semaine qu'on rigolait de... On rigolait un peu trop, pour pas rire de ça.
On a compris que c'était un mécanisme d'autodéfense pour toi, enfin, pour vous, du coup.
Et voilà, qu'on en a discuté, etc. Ah bah super, on a vécu plein de trucs pas cool, donc autant... Enfin, si ça peut aider d'autres personnes, en fait. Et je pense aussi que j'avais aussi une discussion avec des amis. Une fois, en soirée, j'avais reçu une remarque raciste. Et en fait, j'étais complètement, totalement tétanisée. Enfin, vraiment, sur le coup, je suis en mode, mais c'est pas possible. Enfin, on est en 2020, je comprends pas comment c'est possible.
Tu peux te demander quelle était la remarque ?
Oui. Du coup, en gros, j'ai passé... c'était au PIC. Au PIC, du coup, le Picasso, c'est le bar de l'UTC.
Foyer
étudiant. Pardon. Foyer étudiant. Oups. On a coupé ça. Et en gros... Et du coup, je rentre dans le foyer. Et il y a quelqu'un que je ne connais pas du tout qui passe et dit « Ah, salut Kirikou
oh. !»
Et j'étais en mode... Et vraiment, en fait, il allait dans le sens contraire de moi. Et du coup, j'avance et je m'arrête et j'étais en mode... Non, mais... Oh, c'est trop bizarre, enfin, je le connais pas du tout, je sais même pas c'est quoi son prénom, etc. Et du coup, j'ai raconté à mes amis, ils étaient en mode hyper vénère, on va retrouver et tout. Genre, ok, et j'étais juste en mode, bah, c'est hyper... Enfin, en fait, je pensais que c'était méchant, mais enfin, je sais pas trop, en fait. Parce que,
Je comprends pas comment c'est possible que...
Le raccourci
enfin, j'arrive pas à comprendre.
Enfin, je me disais... Je suis pas un mec, je suis pas petite, je suis vachement. Enfin, je fais 1m70, donc je suis vraiment pas petite, donc je suis en mode. Je sais pas.
Même si t'étais un homme petit, tu vois, un peu plus foncé, genre.
Voilà,
à quel moment,
non, c'était un peu. Et justement, j'ai une amie qui m'a dit, mais comment on peut faire pour t'aider, en fait, dans ces situations-là? Comment on. Et je suis en mode. Bah, je sais pas. Enfin, le moment, surtout que j'étais vraiment perdue, j'étais sur le pont. Bah, j'ai quand même pas envie de passer une bonne soirée, donc je vais pas prendre la tête toute la soirée à cause de ça, mais. Et du coup, ça m'avait marqué le fait qu'elle me dise bah, comment on peut t'aider, etc. Et parce que Bah, j'ai l'impression que quand c'est pour les autres, des fois, on a un peu plus de courage que quand c'est pour soi-même. Enfin, après, c'est un peu comme ça, c'est que je chansonne, du coup. Donc, c'était... Ouais, ça m'a un peu dit, bon, ça serait cool de faire quelque chose comme ça un jour. Et voilà, depuis... voilà, du coup, il y a l'atelier maintenant, donc c'est bon. C'est en marche, donc c'est trop bien.
Et toi, Louise, tu t'es aussi sentie vraiment très impliquée dans le sujet et tu sentais qu'il y avait besoin d'avoir un atelier en plus, quelque chose qui aide les gens à savoir comment réagir?
Ouais, totalement, parce que... En France, en ce moment, j'ai l'impression que, enfin, on a une image de nos pays occidentaux comme étant des démocraties pour les droits de l'homme, enfin vraiment et du citoyen. Enfin vraiment, on a l'impression que vraiment on est dans le monde des bisounours, que la lutte féministe est arrivée à sa fin, on a le droit de vote, en principe on a les mêmes droits que les votes, qu'aujourd'hui il n'y a plus l'esclavagisme, il n'y a plus de ségrégation chez les États-Unis, du coup le racisme n'existe plus. Et en fait, au quotidien,
si.
Pourtant, moi je vivais, par exemple, plus particulièrement le sexisme, moi je le ressentais au quotidien. Et au début, je ne l'identifiais même pas comme du sexisme, en fait, c'était juste des actes, des mots qui paraissaient banals et qui me blessaient. Et en fait, petit à petit, même pas en me renseignant sur le féminisme, mais juste en vivant ma vie, je me suis rendu compte que ces remarques qui paraissent banales, elles étaient justifiées juste par le fait que j'étais une femme. Et donc la définition même en fait du sexisme,
que
quoi.
Tu devais te construire autour de
voilà que je devais me construire autour de mon sexe, de mon genre, et donc que c'était pas possible, parce que moi dans mon éducation j'avais compris que la France c'était un pays où on était tous égaux, tous fraternels ou etc., solidaires, et en fait c'est pas le cas. Et en fait moi ça m'énerve parce que j'aimais bien l'idée d'un pays où on est tous fraternels ou solidaires entre nous.
Un peu
et
utopique,
donc voilà. soyons acteurs du monde dans lequel on veut vivre, comme la chanson de Nas, If I Rule the World.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que vous voulez d'ailleurs qu'on fasse une autre petite pause musicale?
Ouais.
Allez, musique game.
Et du coup, c'est I Can't Breathe de Her.
At the same time, all the corruption and justice, the same crimes. Always a problem if we do or don't fight and we die. We don't have the same right. What is a gun to a man that surrenders? What's it gonna take for someone to defend her? If we all agree that we're equal as people, then why can't we see what is evil?
Can't breathe. Will anyone fight for me? all the time. Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge. We seek justice. We are past fear. We are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, we can't breathe.
De retour du coup après cette petite musique choisie par Laïs, est-ce que tu veux dire un mot?
Du coup c'est une de mes chanteuses préférées américaines que j'écoute depuis pas mal de temps et elle est assez engagée politiquement bah, comme on vient de le voir et elle a écrit cette chanson du coup au moment des, du coup du meurtre de George Floyd aux États-Unis et elle a gagné un prix pour cette chanson et ça me paraissait enfin elle est vraiment très forte et tout toute la
elle
partie
est super
ouais,
forte ouais.
Ouais, elle rappe un peu, du coup, donc voilà. Donc ça me paraissait adapté pour cette émission.
La thématique, ouais. C'est putain plaisir. I can't breathe. Ouais. L'artiste est her. Vraiment trop cool.
Tant mieux.
Merci pour la découverte.
Ouais, c'est clair. Ouais, non, du coup, on peut continuer de parler de votre projet, on parlait déjà avant. Est-ce que, du coup, vous avez recensé des idées, entre guillemets, d'agression et de micro-agression qui puissent arriver? Si oui, comment?
Oui, comment vous avez construit Ouais. Bah alors la première étape ça a été du coup pendant du coup la semaine de notre API où on a vraiment discuté, on a fait des gros brainstorming de tout ce qu'on avait vécu parce que faut savoir que dans l'atelier toutes les situations qu'on a écrites elles ont été soit vécues par une de nous trois avec Mathilde qui n'est pas là soit du coup on s'était dit bon on a fait un peu les grands axes de tout ce qu'on a vécu mais il faudrait la certaine chose que par exemple l'islamophobie etc bah n'étant pas musulmane, je l'ai jamais vécu, etc. Donc on s'est dit, bon, comment on va faire pour avoir plus de réponses? Et on a décidé de lancer un petit sondage sur le groupe Facebook de l'UTC pour voilà, avoir de toute personne qui aurait pu subir des micro-agressions. Donc la première semaine où on a lancé le sondage, je pense qu'on avait une moitié de personnes qui nous insultaient tout simplement parce que voilà, c'était légitime, je pense, dans leur esprit. Parce qu'en fait, on avait fait en sorte que...
Vraiment 50% des réponses que vous avez
reçues. La première semaine, là, on en a beaucoup plus de...
Dans les premières réponses. Ouais.
Les premières réponses, c'était pratiquement que ça.
Toutes les premières réponses.
Et comment ça, des insultes?
Bah, c'était vraiment très... En fait, ça nous... c'était... comment dire?
C'était décrédibilisant, en fait. Ouais, en fait, c'était comme si... on dramatisait la situation, les micro-agressions, les agressions, ça n'existait plus et que de toute façon, au bout d'un moment, fermez vos gueules, on s'en fout quoi, de ce que vous ressentez.
Ils ont vraiment dit des choses.
C'était hyper violent. Ouais. Et surtout qu'en fait, on a fait en sorte que le sondage soit anonyme, puisqu'on voulait que le plus de personnes puissent s'ouvrir et sans être jugées, etc. Ouais. Du coup, bah, ça a facilité la chose. Forcément. On a eu aussi beaucoup de. Enfin voilà, apparemment des petites bourges qui connaissaient rien à la vie.
Bien pensantes.
Et après, oui, c'était. Oui, non, mais en vrai, Le premier soir, c'était un peu... je me suis un peu dit, bon, ça sert vraiment à grand-chose, parce que si c'est comme ça que les gens le vivent. Mais je me suis dit, non, ça montre juste qu'il y a un souci.
Cet atelier est pertinent.
C'est ça. Et après,
comment était agencé le sondage? Enfin, vous présentiez le projet, et après, les gens devaient juste mettre un commentaire.
Oui, c'est ça. En gros, on avait fait du coup le post avec on présentait bien notre projet, etc., dans le cadre qu'on faisait. Et après, il cliquait sur sondage et c'était vraiment en mode merci beaucoup pour votre participation. Et on laissait libre
juste un cadre
pour écrire. C'est ça. Et après, on a eu quand même beaucoup de témoignages, mais hyper forts en fait, de personnes qui ont vécu des agressions, etc. Et c'était très violent, mais en même temps, c'est la réalité. Du coup, ça a permis quand même de voir d'autres choses qu'on n'avait pas forcément vécues et qu'on a pu incorporer dans notre atelier, du coup.
Donc au final, vous avez pu identifier les types de discrimination qui...
Oui, du coup, dans celles qu'on a reçues, c'était beaucoup d'homophobie, de sexisme. Il y a eu un peu d'islamophobie aussi, du racisme aussi. Et après, parce qu'après aussi, on a demandé à nos amis de le partager, etc., sur d'autres plateformes comme Twitter. On a aussi le validisme. Donc c'est pour les personnes qui ont un handicap et qui ne sont pas... représentés, pas cités, la grossophobie aussi, on l'a eu. Et après, celle qu'on a vécu, sexisme, racisme, etc.
Et on fait un appel à témoignages, notamment pour le validisme et la grossophobie, pour lesquels on manque un peu d'exemples concrets.
De situations concrètes.
Voilà. On mettra sous le podcast qui sortira sur cette émission, on mettra les liens de vos sondages.
Trop bien.
Et pourquoi pas refaire un petit post, même avec le compte de Bruit.
Ok, trop trop bien.
Pour vous aider un peu sur ce beau projet. Ouais.
Ouais, c'est clair. Mais en vrai, je reste quand même surprise. Ça m'étonne, oui et non, mais
Ça t'étonne par rapport à l'UTC? Aux élèves
On en parlait un peu là avec Jade, justement, que c'est vrai que moi, ça fait... 3 ans et quelques que je suis là maintenant. Et c'est vrai qu'au début, moi j'avais un peu une image qu'à l'UTC, y a quasiment la parité homme-femme. On est quand même dans un milieu où on a beaucoup de
éducation.
Et puis en plus on a des matières qui sont là pour nous éduquer aussi sur les sciences sociales et tout. C'est pas que des sciences, on parle aussi de ce genre de sujet dans plein de matières, plein d'UV. Dans mon esprit, on était quand même dans un milieu assez safe, entre guillemets.
Et sain, moi aussi.
Et en fait, en vivant certains trucs qui n'ont pas changé du lycée, du collège, je me suis dit, c'est pas si bien que ça. Mais c'est vrai que ces derniers temps, surtout sur Facebook, où il y a parfois des débats qui n'ont ni queue ni tête et où certaines personnes s'en prennent plein la tête pour ce genre de raisons comme vous, quoi. Et ça me fait halluciner, ça me surprend des étudiants de l'UTC, en fait.
Même sans anonymat, moi, je lis des commentaires sur les posts Facebook sexistes et qui sont, la majorité du temps, forcément, tenus par des hommes. Et leurs potes viennent acquiescer ce qui vient d'être dit. Et forcément, après, la personne qui va essayer de se défendre, elle est décrédibilisée par tout un groupe de potes qui met la pression en disant « ça va, vas-y, on rigole ». Et oui, mais ça nous fait pas rire.
C'est ça. À un moment, c'est drôle. On parle de choses sérieuses et tout. Et toi, tu viens décrédibiliser tout ce qu'on dit.
Un groupe d'écoles d'ingénieurs qui, effectivement, comme tu disais, ont des sciences sociales, sont censés être éduqués et sensibles à plein de sujets sociétaux. Ça fait peur.
Moi, je m'y attendais un petit peu quand on l'avait fait. C'est pour ça que de base, je voulais pas trop le faire parce que je me suis dit. Là, on est un peu dans notre safe place avec l'ABI où on n'avait que des personnes. Super gentille, super bienveillante, et j'avais un peu peur d'avoir les commentaires Facebook, mais en plus fort, puisque là c'était anonyme, et du coup ça a été un peu le cas, mais du coup là quand même on a quand même pas mal de vrais témoignages, et donc c'est cool.
Et pour les témoignages c'est chouette, mais est-ce que du coup vous avez pas peur que les gens qui viennent à l'atelier soient déjà plein de bonnes intentions finalement, et que les personnes qui auraient besoin d'être éduquées et d'essayer d'écouter, de comprendre un peu plus les victimes, finalement elles ont cette réaction de dire on s'en fout, vous êtes des bourgeoises quoi. Réflexion d'ailleurs qui n'avait aucun sens.
Il a des commentaires, c'est super drôle parce que ça te voit que la personne n'a même pas regardé nos photos de profil avant de dire ça. C'était même pas cohérent avec nos visages en fait. Mais c'était la question qu'on se posait aussi, je me dis, on met l'atelier à disposition. Moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir des discussions avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec moi. Et du coup, je me dis, bah, là, vraiment, on fait tout pour que ça soit accessible à tout le monde, le fait de pouvoir se déconstruire, etc. Si les personnes ne veulent pas, bah, c'est leur problème en soi. Enfin, à la fin, bien sûr, c'est pas... Enfin,
mais est-ce que c'était pas le but de base de oui. toucher ces personnes qui, justement, ne sont pas sensibles?
Mais je pense que ça se fera de proche à proche, en fait.
C'est ça. Ouais. Enfin, on pourra pas, de toute façon, dans tous les cas... Enfin, je veux dire, le racisme, il est pas dans ma tête. Et du coup, je peux pas le changer parce que c'est que aux personnes qui... Pour moi, c'est un peu... Enfin, si on voyait ça un peu de façon un peu dramatique, c'est un peu une maladie. Et c'est... Enfin, tu dois toi-même t'en guérir et je peux pas changer... Enfin, si la personne n'est pas dans la démarche de vouloir changer, dans tous les cas, elle viendra pas et... Mais bon, on espère qu'au fur et à mesure du temps, il y aura de plus en plus de personnes qui seront du coup dans cette démarche de vouloir voilà, changer, etc.
Tout
et...
plein d'alliés.
Ouais, c'est ça.
Et puis aussi, il y a un truc, c'est que vous parlez de plein de personnes, plein de communautés, plein de... Je veux dire, c'est quand même difficile de faire partie de toutes les communautés discriminantes. Oui. Et bon, c'est force ça. Aux personnes qui, ouais. qui sont dans ce cas-là. mais du coup, c'est toujours intéressant de se renseigner là-dessus. Enfin, je veux dire, moi, je peux subir le sexisme et le racisme, mais je ne subis pas le validisme, je ne subis pas la grossophobie, je ne subis pas tout ça. Donc, même moi qui, bon, je pense que je suis quand même un minimum éduquée là-dessus, bah, y a sûrement des choses dont je ne me rends pas compte et qui fait de moi parfois une micro... agresseuse, ça se ouais. dit.
On va dire dans des mots.
Donc, si déjà les personnes qui ont la volonté de s'éduquer à 100%, peut-être qu'on fera avancer les choses encore plus. Donc,
c'est ça. Et puis le but, c'est... En fait, je pense que là, c'est même pas de vraiment sensibiliser. Enfin, si c'est sensibiliser les gens pourquoi les situations sont problématiques. Mais pour moi, le but vraiment profond, c'est de vraiment de devenir un allié, en fait. Donc pour moi, quand t'es un allié, c'est que déjà, t'es déjà un peu déconstruit dans ta tête. Et là, c'est aller dans la zone d'action, maintenant. On a fait la zone théorie, on sait que ces choses-là sont problématiques, etc. Et l'atelier, c'est vraiment de se dire, OK, maintenant, je vais vraiment aider, faire des choses concrètes. Et après, peut-être qu'un jour, on créera un autre atelier qui sera plus dans la sensibilisation, pourquoi expliquer, pourquoi ça, c'est vraiment, genre, faire une conférence, quelque chose, des choses comme ça, ça serait possible. Mais pour moi, le but vraiment de l'atelier, c'est de... Plus que sensibiliser, c'est plus vraiment de donner des clés pour devenir vraiment un bon allié et
des mécanismes en fait. De réaction, quoi.
Et si, même si les gens sont déjà sensibilisés à ces causes, ça ne veut pas dire justement qu'ils savent agir comme étant un bon allié. Et donc, si on donne confiance à des gens comme ça pour élever la voix et gueuler un peu quand il y a un truc qui déplaît, bah, je pense que ça va toucher de plus en plus de monde. Et les chieurs ou les chieuses qui ne veulent pas... qui veulent pas voir les choses en face, et ben ils vont être obligés en fait de les voir parce qu'il y aura plus en plus de monde qui n'accepteront pas ce genre de comportement et donc ils auront pas le choix finalement.
C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en vrai ce qui est important, parce que c'est bien d'être conscient des choses, mais si on n'en parle pas, au final ça change pas grand chose parce que même moi, enfin j'ai déjà parlé avec des personnes des personnes noires par exemple qui me disaient moi, on fait souvent ce genre de blagues un peu racistes, j'aime pas du tout, mais je dis rien parce qu'on va me prendre pour quelqu'un de pas drôle, on va me dire oh, c'est bon, je rigole, machin, donc j'ai l'impression que ça sert à rien, donc je dis rien. Donc forcément, les personnes qui font ces blagues n'ont pas forcément conscience que c'est pas cool, tu vois, et que c'est pas drôle. Donc c'est vrai que c'est cool d'aider les gens à parler et à s'exprimer sur ce qu'ils pensent. Quoi.
Ouais, typiquement, moi je pense qu'il y a plein de fois où il y a des blagues qui sont dites et j'ose effectivement pas réagir parce que. Je sais pas comment réagir et je me dis l'intention est pas mauvaise, c'est peut-être vraiment pour rire, bon c'est sexiste mais ok laisse couler et là j'aimerais bien savoir quoi répondre et avoir quelque chose de pointu à dire.
Je pense que c'est vraiment le but de l'atelier, c'est qu'on discute tous ensemble parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon de réagir, enfin il n'y a pas la solution exacte, nous on l'a pas du tout et même dans la plupart de nos situations on a commencé à chercher des pistes de solutions, mais le but c'est vraiment qu'on discute tous ensemble et de vraiment comprendre chacun. J'ai un peu du mal avec la confrontation et tout. Comment je peux faire passer mon message sans que ça me fasse sortir de ma zone de confort et que je me sente en danger ou mal à l'aise aussi. Enfin, c'est vraiment d'arriver.
C'est apprendre comment en tant qu'individu on peut être bénéfique à une communauté juste en agissant de différentes manières. On peut agir de façon violente ou moins violente, on peut être calme ou moins calme en fonction de la situation, en fonction de est-ce qu'on est dans un lieu public ou pas, est-ce qu'il y a des gens autour de nous ou pas, est-ce qu'on connaît l'agresseur ou pas, et juste apprendre à agir de différentes manières et à se sentir légitime d'agir, non pas de faire des leçons de morale ou quoi que ce soit, mais juste de dire stop Et il y a plein de façons de dire stop différentes et qui dépendent en fait de notre personnalité et du contexte. Et en fait, l'atelier, c'est essayer vraiment de mettre en perspective ça. Chaque individu est, bah, est un individu, donc a ses particularités. Et dans des situations précises, et ben cet individu-là, en fonction de sa personnalité, pourrait réagir de cette façon-là. S'il a peur, est-ce qu'il sait se battre ou pas? Est-ce que c'est un homme ou une femme? En fait, c'est ça. En fait, c'est se poser des questions et à avoir un peu de plus en plus de réflexes pour lorsqu'on est dans ce genre de situation réellement, on ait le réflexe de se poser ce genre de questions et de pas juste dire, enfin d'être paralysé par la peur. Non, non, mais je suis pas légitime, ou alors non, non, mais j'ai peur, ou alors non, non, mais je ne sais pas quoi faire.
Ah, trop voilà. Chouette. Ça me donne vraiment envie de participer. Est-ce que vous savez un peu quand est-ce que vous allez commencer les ateliers?
Bah, on aimerait bien que ce soit de pouvoir faire au moins quelques ateliers tests avec des personnes qui seraient intéressées en pour la fin du semestre, enfin comme avant. Et puis nous, ouais, ce serait pas mal.
Donc là, d'ici dans le mois de juin.
Oui, dans le mois de juin, je pense. Bah, on ferait genre des tests, des sessions tests. Donc si jamais vous êtes intéressés,
ouais, bah, super. Direct,
ça part. Et après, bah, il sera vraiment finalisé du coup pour la rentrée septembre. Mais bon, enfin vous deux, vous serez en stage peut-être. Oui. Mais de toute façon, dans tous les cas, il sera, enfin, on fera en sorte que qu'il continue à se dérouler à l'UTC. Donc voilà.
Sur un principe ou sur de, je sais pas, une fois par semaine ou
bah je pense que ça dépend par
enfin ça dépend de la rentrée
c'est ça
sociétale
et
en
après fait. Et après on verra comment on va pouvoir le ouais. l'appliquer parce que le but aussi c'est de on aimerait bien aussi de former des animateurs et des animatrices oui. pour du coup avoir de plus en plus de personnes pour
j'imagine aussi, que ce serait un peu lourd sinon si vous êtes que toutes les oui. trois
ouais bah là aussi Morgane du coup qui est aussi, on est quatre mais donc oui à voir comment comment ça va se dérouler
ouais, parce que du coup l'idée c'est que c'est ce soit comment dire un truc qui reste au fil des semestres aussi ou pas
bah en fait je pense enfin en fait ça dépend de la demande aussi et ouais. De la demande et si nous aussi si on est là etc pour enfin si on trouve des personnes qui sont aussi motivées pour continuer le truc après nous donc mais ça serait bien de voir la façon
en fait dans l'idée il faudrait que ça soit un atelier accessible à beaucoup de monde qui donne envie en fait tout simplement parce que mine de rien c'est un moment d'échange qui est censé être agréable même si on parle de choses qui sont dures on est censé en ressortir en se sentant mieux quoi et donc en fait ça serait cool que les gens en tirent une bonne expérience et qu'il y ait de bons avis et que finalement limite il y ait du bouche à oreille et qu'il y ait des gens qui organisent ce genre de petit atelier sur la base des cartes qu'on mettrait en ligne, je sais pas moi, dans une soirée chill entre potes ou ce genre de choses. Le but c'est vraiment, on commence à en parler, à l'organiser officiellement pendant la rentrée sociétale et puis petit à petit se disséminer, que ça se dissémine auprès des étudiants en fait.
Ah mais moi je pense que ça va vraiment bien fonctionner. Après effectivement il faut que vous ayez la communication qui va ouais. autour pour attirer le nombre de personnes suffisant.
On n'hésitera pas à partager.
Trop bien.
C'est là qu'on fait notre publicité.
C'est clair.
Bruit super média de l'UTC. On propose l'atelier. Vous avez fait un peu des statistiques. Enfin vous avez regardé un peu quel genre de personnes pourraient être intéressées, quel nombre de personnes à l'UTC pourraient être intéressées. Pas encore.
Bah pour l'instant moi j'ai eu. Enfin c'est que des. Donc c'est que quand on en parle, j'en parle avec des amis etc. que j'ai des retours en mode. Je voudrais trop le faire etc. Donc c'est trop bien. Mais on ne sait pas trop parce que comme ce serait du coup la rentrée climat. Qui se passe, ça redevient la rentrée sociétale. Je sais pas si on va le dire, mais c'est pas grave, trop tard.
On peut expliquer déjà un peu le principe oui. de ces rentrées qui sont faites à l'UTC.
Du coup, c'est des rentrées où donc il se passe sur deux semaines et il y a des conférences du coup sur la problématique du climat. Et là, du coup, ils vont aussi ajouter des conférences et des ateliers sur du coup la problématique du genre, des discriminations, etc. Donc voilà, et donc il aurait vraiment lieu dans ce cadre-là, donc ça serait, c'est généralement destiné aux nouveaux qui rentrent à l'UTC, même si c'est accessible à tous.
Sachant qu'à l'UTC, on peut rentrer en septembre et en février.
Oui, c'est ça. Mais du coup, ouais, donc c'est quand même bien qu'on puisse le faire au moins une fois par mois et tout, organiser plusieurs séances, donc voilà.
Et du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que ceux qui ont assisté à la rentrée climat, du semestre dernier, là, c'était A20, du semestre A20.
Ouais,
et donc, qui ont assisté aux conférences The Big Conf, etc., qui ont fait les fresques du climat pendant ces deux semaines, et ben là, ils vont pouvoir reparticiper à la rentrée avec de nouveaux ateliers. Et donc, voilà.
Ouais, ok, chouette. Bah, écoutez, on va devoir rendre l'antenne, il est déjà 14h.
C'était super intéressant et j'espère que ça a motivé plein de gens à vous rejoindre dans ce projet. En tout cas, moi, ça m'a motivé.
Trop bien.
Bah, merci à vous de nous avoir
accueillis.
Ouais.
C'était hyper, ça super fait plaisir.
Je vais rendre l'antenne et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.